Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique du Midi Toulousain avec Aline Thomazin. Bonjour Aline.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Michel de Rivoire.
Bonjour Sébastien Pénary, bonjour Aline.
Notre guide dans ses demeures et familles, et nous allons un peu être entre ville et campagne aujourd'hui avec l'hôtel Dahu et la famille Dahu du XVIe siècle.
Dahu ou Dahus ?
Dahus, je crois.
Ici, on prononce...
Mais on s'intéresse surtout à la tour de Tournoire qui lui était accolée.
Alors, nous avons quitté l'hôtel du Vieux Raisin et vous nous avez expliqué que, en fait, cet hôtel du Vieux Raisin que nous découvrons depuis la rue du Languedoc a été coupé dans sa partie arrière par la rue aux Aisnes, qui a également coupé la partie avant de l'hôtel que vous allez nous décrire et que l'on voit quand on monte la rue aux Aisnes depuis la rue du Languedoc sur la partie gauche, la tour de Tournoire.
La fameuse tour de Tournoire. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en empruntant la rue aux Aisnes, comme vous venez de le dire à l'instant, on roule ou on marche le jardin, le grand et certainement très beau jardin, de l'hôtel Dahus primitif. Un hôtel gothique, je crois qu'on l'a dit la fois précédente, dans une émission précédente, et de ce gothique tardif avec des faux mâchicoulis, des créneaux et quelques gargouilles. Bon, on est presque à la cathédrale d'Albi, si on veut avoir des références en bon état. Cet hôtel Dahus, du nom de Pierre Dahus, docteur en Eslois, ancien juge de Villelongue, capitoul en 1474, et juge d'impôt des causes civiles de la Sénéchaussée de Toulouse, porte en armoirie de sable au buisson lacéré de sinople, au chef d'azur chargé de 2 étoiles d'argent, et surtout, il est très ambitieux pour construire un tel hôtel. Alors, si on regarde une vue aérienne de Toulouse aujourd'hui, une vue par Google ou qui vous... que vous voudrez, on voit bien tout le long de la rue d'Aussargues, on voit bien, et le retour rue de la Pléo et rue du Languedoc, on voit bien qu'il y avait un moulon.
Il y a tout ce moulon, et oui, c'est ça.
Et sans rentrer dans les complexités des divisions, à partir de sa mort, à ce Pierre Dahus en 1488, ce grand hôtel va être divisé, et ses dépendances, et ses jardins, ses cours, va être divisé en trois lots. 1504, c'est Saint-Vincent de Roquette, fils du capitoul Pierre de Roquette. Il s'intitule maître des ports, P-O-R des ports fluviaux, j'imagine.
Des ports, il y en avait à
maritime,
Toulouse. Hein.
Voilà. Il fait cela, il est noté comme ceci en 1512. On pense qu'il était viguier de Toulouse, on le sait d'après les archives de la famille de Roquette-Buisson, famille importante ici à Toulouse. Lui-même porte d'azur au roc d'or et cartelé d'or à 2 faces de gueule. Et ce Vincent de Roquette ne va pas l'occuper longtemps.
Ah.
On pense qu'il le loue à M. de Nups, dont on ne sait pas grand-chose de lui, il est conseiller au Parlement. Il est mort en 1521. On a son portrait, on le cite de temps en temps, une source iconographique extraordinaire. C'est un manuscrit, le manuscrit d'Hilaire Pader,
est
un trombinoscope, excusez-moi le terme.
Mais beaucoup de portraits.
Voilà, et des notices aussi sur ces personnages. Ça nous permet de suivre un peu tous ceux qui ont habité ce grand hôtel. Et en fait, l'hôtel est beaucoup plus documenté à partir de 1528 et son occupation par Guillaume du Tournoir, qui a été un parlementaire, bien sûr, et qui a été président second du Parlement. À ce moment-là, il est dit seigneur de Fonbeauzard, qui est une propriété rurale à 8 km de Toulouse au nord, une lieue. Et c'est lui qui va être le constructeur de la tour Scaligère, belle tour d'escalier, dont on dit que c'est une des plus spacieuses et une des plus belles en termes d'ornement.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la correspondance entre la maison de ville, enfin, l'hôtel en l'occurrence, et la propriété à la campagne.
Alors, 8 km, Fonbeauzard, c'est Launaguet, Aucamville. C'est la première margelle, si vous voulez, des terrasses de la Garonne. Ce sont des terres, certes, de bonnes terres, mais qui surtout ne sont pas les terres du Lauragais. Donc
oui.
C'est surtout pour la production maraîchère, pour le petit bétail, et puis les droits seigneuriaux qui, dans le cas de Fonds-Beaux-Arts, sont très modestes. C'est une petite seigneurie. Mais il fait un très beau mariage. Ce Guillaume du Tournoir, seigneur de Fonds-Beaux-Arts, président au Parlement de Toulouse, président du Parlement de Toulouse, c'est quand même une des têtes de cette institution, puisqu'il épouse une nièce d'un chancelier de François Ier qui s'appelle Catherine de Ganay.
Ah oui, oui, oui.
Voilà.
Très belle, très beau mariage. Alors sans doute, puisque les mariages étaient quand même des occasions aussi d'accéder à une position sociale beaucoup plus importante, est-ce que ça a été le cas?
Alors, c'était le cas, oui et non, parce que la dame a dépassé le monsieur dans son cas.
Ah.
Je veux dire par là, bon, le président, lui, meurt en 1533,
oui.
Mais personne ne s'en rappelle, si ce n'est le nom de la tour. Elle a, si vous voulez, dans son bagage, je ne veux pas dire dans sa dot, mais elle a cette lignée de chanceliers qui ont servi oui. le royaume à cette époque-là, et elle exprime, et ça on le sait par les archives, sa volonté que Fonds-Beaux-Arts, la seigneurie, donc reste dans la famille.
Ah oui.
Et
oui.
Je cite, je vous déguillemets, dans la descendance tant mâle que femelle. Plus personne ne nous aurait parlé comme ça aujourd'hui.
Oui.
On a compris.
Oui.
Elle veut que la propriété reste dans la famille.
La famille.
Oui. Elle le veut tellement qu'elle fait des codicilles chez son notaire. Elle explique, voilà, parce qu'elle avait beaucoup d'enfants, ce ménage a eu beaucoup d'enfants, et des disputes. On est au milieu du XVIe siècle, on est encore avec des tiraillements.
Les grandes familles.
Donc, avec ces codicilles, où on a cette dame qui est codicillante et voulante, on dirait, d'elle, va obtenir que Fonds-Beaux-Arts reste donc à son aîné, qui s'appelle Accurse du Tournoir. C'est lui qui va occuper également l'hôtel d'Aüs, avant son énième partage. C'est Gabriel qui l'occupe d'abord, un de ses frères, mais comme il meurt en 1532, c'est-à-dire très vite, au moment des aménagements par la famille de Tournoir, d'où cette urne, vous savez, le motif qui est au-dessus de la porte d'entrée d'un tour d'escalier,
oui.
et qui est encore très bien conservé. Et on lit donc une urne qui a été certainement sculptée au moment du décès de ce Gabriel, et on lit la devise de la famille qui est « Estomi domine turris fortitudinis a facie inimici ».
Miki.
Si
bien,
vous voulez.
Miachi, ça c'est
Miki. Est-ce qu'on peut traduire
Alors, je la connais de mémoire, je vous la dis.
Oui, oui.
Seigneur, soyez, que cette tour soit ma défense contre mes ennemis.
Ah,
et Tournoir, voilà.
Oui.
Alors Tournoir, ce qui est aussi un indice, en plein XVIe siècle, siècle humaniste, on a la délicatesse, c'est pas une délicatesse, mais on utilise des mots, des noms propres, si vous voulez, qui font bien, c'est une sorte de
qui sont enrichissants.
Oui, j'allais dire de snobisme, enfin voilà. Et donc, ils ont plusieurs orthographes. Tournoir, ça s'écrit de différentes façons, ça se prononce de différentes façons. Mais ce Accurse de Tournoir, donc, qui est donc, le seigneur de Fonds-Beaux-Arts au milieu du XVIe siècle, est greffier criminel, et il a vraiment pignon sur rue. Mais ça ne dure pas.
Ah.
Et nous arrivons à la génération d'après, qui arrive en pleine guerre de religion, après 1562.
Et on reste dans la famille, on est dans une succession.
On est encore dans la famille, mais le Laurent du Tournoir, donc, qui est le fils de cette Accurse, c'est lui qui va perdre d'Aüs. C'est à partir de là que la famille va céder progressivement. Et lui, il est connu comme greffier criminel. Il a pris la charge de son père. C'est un ligueur. On l'a dit en commençant, il est pris dans ce jeu de passion. Et qui dit passion dit jeu de passion aussi, dans tous les sens du terme. Je ne sais pas s'il jouait, mais en tout cas, tous ses biens ont été saisis.
Ah oui, donc il a dû perdre beaucoup.
Voilà, absolument. Et toutes les dettes qu'il avait valaient plus que son bien à Fonds-Beaux-Arts et à Toulouse. Donc c'est.
Est-ce qu'on hypothéquait les biens?
Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel, Aline, qu'on ne souligne peut-être pas à chaque fois. Parce que le turnover, pardon d'utiliser un mot contemporain, pour expliquer que ces familles ne gardaient en moyenne moins de 50 ans, c'est-à-dire 2-3 générations maximum. Il y a des exceptions, Parfois, ça va beaucoup plus vite parce que ce sont des placements. On achète pour faire une plus-value et aussi pour rembourser des dettes ou simplement pour se servir. Et c'est le cas de Laurent du Tournoi à Formosa dans les années 1580. C'est une famille dont on connaît bien le nom, famille de Mansancal,
ah oui,
qui va se servir, enfin en tout cas qui va récupérer la seigneurie de Formosa en paiement de ses dettes. Voilà. Alors, il y a le serment de
Mansancal, constructeur de l'hôtel de Mansancal.
Rue Espinasse, absolument.
On est en quelle année, là, Michel ?
On est 1580, vraiment la toute fin du XVIe siècle. Et comme on connaît une époque très écrite, très de papier, très procédurale, quand les archives sont conservées, on sait que l'aïeule Catherine de Ganay a exigé, voulu et bien écrit que la propriété reste de Formosa, reste dans la famille. Et donc, c'est la sœur de ce Laurent du Tournoi qui va tout faire pour récupérer la seigneurie de Formosa. Et elle obtiendra de la racheter avec son mari Jean de Forest, qui est aussi un conseiller, dans les années 1606.
Donc, 1610. Le sort de l'hôtel et de Formosa, les sorts respectifs des deux édifices ont été séparés à un moment donné.
Ils ont été séparés, c'est les créanciers. Pour ce qui est de Daus, alors c'est devenu la propriété a été séparée. C'est la famille de Toupignon qui reprend, hein, par mariage héritier de Marguerite de Rivière, qui reprend la partie Daus. Et c'est la famille Comignan qui reprend la partie l'abat de Mourlin, c'est-à-dire la partie sur la rue de Languedoc.
Donc, voilà. Des successions de propriétés qui vont nous amener certainement jusqu'au XIXe siècle.
Oui, où on retrouve la famille de Gounon-Loubens qui va arranger l'immeuble à la mode du XIXe siècle. Et on ne peut pas les citer sans parler du château de Loubens.
Bien sûr,
et ça serait
Loubens,
une émission
Loraguet,
à elle seule.
Loubens,
une belle campagne bien. Du pastel.
Merci beaucoup, Michel, d'avoir encore une fois décrit la vie de ces grandes demeures.
Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.